Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Libre à vous. C'est le moment que vous avez choisi pour vous offrir 1h30 d'informations et d'échanges sur les libertés informatiques et également de la musique libre. Et c'est la 200e émission Libre à vous. 200. Ce nombre sera d'ailleurs au cœur des deux chroniques du jour. Merci à celles et ceux qui nous suivent depuis le début en mai 2018. Merci pour votre fidélité. Merci également à celles et ceux qui nous ont découvert plus récemment. Et je fais notamment un petit coucou à une personne sur Mastodon qui nous a découvert récemment et qui a commencé à écouter l'émission depuis le début, depuis la première émission. Donc bon courage. Nous vous convions ce mardi plutôt au Café Libre pour débattre autour de l'actualité du logiciel libre et des libertés informatiques. Ce sera le sujet principal de l'émission du jour, avec également au programme en début d'émission la chronique de G sur 200 et en fin d'émission la chronique de Vincent Calam sur 200 et de l'orthographe. Je précise qu'exceptionnellement pour cette 200e, même si nous faisons de la radio, nous sommes diffusés en direct vidéo sur PeerTube, le système libre et décentralisé de vidéo. Donc pour nous retrouver, vous allez soit sur le site libreavoue.org, soit sur le site de causecommune.fm. Sur la page consacrée à l'émission du jour, vous avez le lien pour nous retrouver en vidéo. Alors je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Libre à vous est proposé par donc l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Le site web de l'émission, c'est libreavoue.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles, mais également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours et nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 20 février 2024, nous diffusons direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Ça, c'est la phrase préférée. Mais voilà, j'ai un trou de William de l'émission Cyberculture qui adore que je dise ça, donc je lui fais un petit coucou parce que je sais que les personnes des autres émissions nous écoutent. À la réalisation de l'émission du jour, ma collègue Isabelle Avani. Bonjour Isa.
Salut Fred, bonne émission.
Et il y a également juste à côté d'elle, mon collègue Étienne Gonu qui ne pouvait pas louper cette 200e. Bonjour Étienne.
Salut tout le monde.
Alors nous vous souhaitons une excellente écoute.
Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+ en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause commune. Pour participer à notre conversation, 09 72 51 55 46 et aussi sur causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
G, auteur du blog BD Grisbouille, vous expose son humeur du jour dans sa chronique. Les humeurs de G, hein, c'est ça, hein, exactement. C'est ça, ouais. Je sais pas pourquoi. Maintenant, je n'ai pas encore fini. Donc, des phrases que des GAFAM au mode numérique, en passant par les dernières lubies anti-internet de notre classe politique. Il partage ce qui l'énerve, l'interroge, le surprend ou l'enthousiasme, toujours avec humour. L'occasion peut-être, derrière les boutades, de faire un peu d'éducation populaire au numérique. Donc, le thème du jour 200, et je vais brancher la caméra sur toi, si ça fonctionne bien. Et voilà, donc c'est à toi, G.
Bonjour, salut à toi, public de Libre à vous, en direct, en vidéo pour une fois. Alors oui, effectivement, ça y est, ça paraît fou, mais on va sans doute pas mal le répéter pendant cette émission. C'est déjà la 200e édition de Libre à vous, presque 6 ans après la première. Et oui, tout cela ne nous rajeunit pas. Enfin, je dis ça, je vais pas me la jouer ancien combattant non plus. Moi, je suis arrivé il y a de ça 1 an et demi seulement, et j'ai fait ma première chronique lors de la 152e émission. Puis aujourd'hui, c'est seulement ma 16e chronique, c'est dire si ma part de responsabilité dans ce 200 est encore assez limitée. Mais il paraît que 200, ça se fête. Alors moi qui suis un énorme geek, ça me surprend quand même un peu. En effet, 200 n'est absolument pas un chiffre rond. Vous auriez fêté la 128e ou la 256e émission, j'aurais compris. Mais 200... Non, mais n'importe quoi. Bon, alors là, cher public de Libre à vous, tu es peut-être en train de te demander, mais de quoi il parle? Ou alors, tu fais partie des gens qui connaissent le binaire et tu te dis, comme les gens autour de cette table, mais qui les cons? Oui, Fred, on va bien parler de binaire pendant cette émission. Et oui, Bookie, on va peut-être même embrayer sur de l'hexadécimal après. Bon, public de Libre à vous, ne t'enfuis pas tout de suite, tu vas voir, c'est tout simple. Dans la vie de tous les jours, on compte en décimal, c'est-à-dire en base 10, parce qu'on a 10 doigts. En informatique, on compte en binaire, c'est-à-dire en base 2, parce qu'on a 2 doigts. Non, parce que l'informatique est basée sur des composants électroniques avec 2 états possibles. Soit le courant passe et c'est un 1, soit le courant est coupé et c'est un 0. Ça va? Alors, compter en binaire, c'est facile. C'est comme en décimal, mais avec moins de chiffres. En décimal, on a 10 chiffres, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et lorsqu'on a atteint 9, on incrémente le chiffre des dizaines qui passe de 0 à 1. Ouais, même si le 0 était implicite, 9 c'est bien la même chose que 0,9, enfin, pas 0,9, hein, 0,9. Et puis ben, on recommence à compter de 0 pour les unités, donc on a 1 suivi de 0 qui fait 10, 1 suivi de 1 qui fait 11, et arrivé à 19, même chose, on incrémente les dizaines, on passe à 2, et on repart à 0 sur les unités, ce qui nous donne un 20 ou 20 si, comme moi, vous venez de Lorraine. Et puis enfin, quand on arrive à 99, on incrémente les centaines cette fois et on remet dizaines et unités à zéro et ça fait 100, voilà. Oui, ne croyez pas que je vous prends pour des lapins de 3 semaines. Je sais que la moyenne d'âge de l'auditoire n'est pas de 6 ans et demi, mais pour comprendre le binaire, c'est simple. Pour comprendre pourquoi le binaire c'est simple, il faut rappeler la simplicité du fonctionnement du décimal. Parce qu'en binaire, c'est pareil, j'ai mes chiffres, alors j'ai seulement 0 et 1, je compte 0, 1, bon, là j'ai déjà atteint le plus haut chiffre dont je dispose, donc je fais comme en décimal, j'incrémente le chiffre des, bon c'est pas des dizaines, mais le deuxième chiffre vers la gauche, et je reprends à 0 pour les unités. On passe donc à un 1 suivi de 0, c'est-à-dire qu'on lit un 10, mais comme le précédent chiffre c'était 1, et bien ce 1, 0 il vaut 2. On continue, on a un 1 qui vaut 3, puis on doit déjà passer au cran du dessus. C'est pas clair. On passe à 1, 0, 0, ce qui se lit 100, mais qui vaut 4. Et ensuite, 1, 0, 1, qui vaut 5, etc. Donc on se rend assez vite compte que les chiffres ronds, c'est-à-dire ceux qui ont quasiment que des zéros à part le chiffre de plus haut rang, ce sont des puissances de 2. Je vous ai dit que 1, 0, c'était 2, 1, 0, 0, c'était 4, mais on peut continuer. 1, 0, 0, 0, c'est 8, 1 suivi de 4, 0, c'est 16, 1 suivi de 5, 0, c'est 32. D'où ma petite blague du début, 128 et 256 sont bien des chiffres ronds en binaire, 128 s'écrivant avec un 1 suivi de 7 0 et 256 avec un 1 suivi de 8 0. Alors que 200 en binaire, c'est nul. C'est 1 1 0 0 1 0 0 0. Inintéressant au possible. Voilà, et au passage, vous comprenez peut-être aussi mieux pourquoi en numérique, on voit souvent des 32 comme dans Win32, des 64 comme dans Nintendo 64, ou des 128, 256, 512, 1024, 2048. Oui, en général, quand tu fais un peu de numérique, tu finis rapidement par connaître les puissances de 2 par cœur. Bon, mais comme vous avez pu le constater, compter en binaire, c'est peut-être facile, mais c'est aussi un peu chiant. Parce qu'avec seulement deux chiffres, 0 et 1, les nombres binaires prennent vite beaucoup de place. Pour rappel, 200, c'est donc 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, soit 8 chiffres binaires contre 3 chiffres en décimale, 2, 0, 0. On a donc inventé l'hexadécimal. Alors là, ne paniquez pas, c'est encore très simple, c'est toujours une base de comptage, mais en base 16. On a donc comme chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, les mêmes qu'en décimale, mais comme il n'y en a que 10, on les complète par 6 lettres, A, B, C, D, E, F, pour avoir nos 16 symboles. Donc A vaut 10, B vaut 11, C vaut 12, D 13, E 14, F 15. Et comment écrit-on 16 alors, si vous avez bien suivi? Eh bien, F étant notre plus gros chiffre, on incrémente l'équivalent des dizaines et on repasse à 0 sur les unités. Donc 16 en hexadécimal, bah, ça s'écrit 1, 0, comme 10 en décimal. Alors vous allez me dire, mais pourquoi? Quel est ce comptage de l'enfer où on mélange des lettres et des chiffres? Eh bien parce que ça offre l'avantage d'une écriture relativement compacte, comme en décimal. Même plus compacte qu'en décimale, puisqu'on a plus de symboles. Les nombres prennent un peu moins de place. Ainsi, 200 ne prend que deux symboles en hexadécimal et s'écrit C8. Rien à voir avec la chaîne, hein, ne zappez pas, vous n'êtes pas dans une émission de Cyril Hanouna, tout va bien, tout va bien. Vous êtes toujours sur Libre à vous. Alors, l'autre avantage de l'hexadécimal, c'est que 16 est une puissance de 2, et bah de fait, il reste toujours bien aligné avec le binaire. Quatre symboles binaires consécutifs correspondent toujours au même symbole hexadécimal. 2, 0, 0, 0, 0 en binaire, soit 0 en décimal, soit 0 en hexadécimal. Tout le monde est d'accord sur le 0, hein, c'est bien. Jusqu'à 1, 1, 1, 1 en binaire, soit 15 en décimal, soit F en hexadécimal. On a donc une correspondance parfaite entre un nombre binaire et un nombre hexadécimal, la variante hexadécimale étant 4 fois moins longue à écrire, ce qui ne gâche rien. Tu vas me dire, oui, mais moi je m'en fous, je compte jamais ni en binaire ni en hexadécimal, laissez-moi tranquille monsieur et mettez donc plutôt cette jolie chemise avec les manches qui s'attachent dans le dos. Eh bien, détrompe-toi, cher public de Libre à vous. Rappelle-toi ce code pour te connecter au Wi-Fi chez tes amis et où tu bloquais sur un des symboles que tu lisais en te demandant s'il s'agissait d'un 0 ou de la lettre O. Eh bien, sache que dit si dans ton code Wi-Fi les seules autres lettres présentes sont A, B, C, D, E, F, alors il y a de fortes chances qu'il s'agisse d'un code hexadécimal et donc ton symbole ambigu. A priori, c'est un 0, puisque la lettre O n'est pas utilisée en hexadécimal. Et oui, parfois, ça peut servir de connaître des trucs tordus, comme l'hexadécimal, même dans la vie de tous les jours. Oui, et une dernière chose, notez que le C de l'hexadécimal n'a rien à voir avec le C des chiffres romains. D'ailleurs, la numérotation romaine n'est pas un comptage par base, mais un système de numération additive nettement moins pratique. C'est pour ça qu'on l'a abandonné, d'ailleurs. Bon, sauf pour se la péter avec les numéros de siècle et de roi, hein. Ouais. Au passage, notez que 200 s'écrit CC en chiffres romains, oui, comme Creative Commons. La famille de licences libres et de libre diffusion, alors d'accord, d'accord. Pour une émission comme Libre à vous, je comprends qu'on fête ce 200, ce CC, même si encore une fois, c'est pas rond. Bref, joyeux 200e épisode, je souhaite encore une longue vie à Libre à vous et j'espère quand même qu'on fêtera la 256e dignement. Ça sera dans un peu plus d'un an, si je me trompe pas. J'allais vous dire salut, mais de toute façon, je reste avec vous pour Au Café Libre. Et d'ailleurs, vous saviez que café C-A-F-E était techniquement un nombre hexadécimal qui valait 51 966 ? Comment ça, vous vous en foutez ? Bon, j'arrête de vous embêter avec mes délires sur les chiffres. Je vous dis salut et à tout de suite.
Écoute, merci G pour cette excellente chronique pour laquelle la rediffusion et la transcription, je pense, sera utile, voire un tableau sur lequel on peut dessiner. Hein, donc,
j'ai fait une BD sur le
sujet. Bah écoute, on mettra. Alors, répète parce que je crois que ton micro avait été éteint.
Ah oui, je disais, j'ai déjà fait une BD sur ce sujet qui est sans doute un peu plus simple à suivre.
Et alors, tu me donneras le lien, comme ça on mettra sur la page en référence à l'émission. Et je rappelle que le site de G, si vous voulez le soutenir, c'est grisebouille.net. Donc le thème du jour, c'était 200. Et donc rendez-vous pris pour la 256e. Émission de Libre à vous. Nous allons en attendant faire une pause musicale. Alors, après la pause musicale, nous aborderons notre sujet principal, Au Café Libre, un débat autour de l'actualité du logiciel libre, donc avec G, Magali Garnero et Isabelle Carrère. En attendant, nous allons écouter, parce que comme c'est la 200e, on va faire des quelques pépites libres parmi nos musiques préférées, et celle-là, c'est une de mes préférées, préparez-vous à danser. Nous allons écouter Let As Usual par The Freak Fandango Orchestra. On se retrouve dans 3 minutes 30. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune.
Écoutez Let As Usual par The Freak Fandango Orchestra, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions, CC by SA.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, Libre à vous. Libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Nous allons passer au sujet principal. Nous allons donc poursuivre par notre sujet principal. Nous vous souhaitons la bienvenue au Café Libre, où on vient papoter sur l'actualité du logiciel libre dans un moment convivial. Un temps de débat avec notre équipe de libristes de choc, issus d'une rigoureuse sélection pour discuter avec elle et eux et débattre des sujets d'actualité autour du logiciel libre et des libertés informatiques. Autour de la table aujourd'hui, eh ben toujours J, hein, docteur en informatique et dessinateur. Magali Garnero, libraire. Présidente de l'April, également connue sous le nom de Bouquinette. Bonjour Mag.
Salut.
Et Isabelle Carrère d'Antanac, notre
Bonjour.
Voisine. Bonjour Isabelle, et qui fait aussi une chronique mensuelle dans Libre à vous. Alors, donc, on va aborder quelques sujets. Alors, les personnes qui sont sur les salons web, alors les deux, hein, le salon Pirtube et le salon de la radio, si vous avez des réactions, n'hésitez pas, j'essaie de les suivre en même temps. Bah, premier sujet, bah, en fait, là, c'est une émission d'actualité, donc l'actualité est prime. Qu'est-ce qui est tombé vendredi ou samedi, je ne sais plus, le résultat de plus de 10 ans de procédure entre une petite structure, une petite entreprise du logiciel libre, une coopérative qui doit faire peut-être 30 ou 40 personnes de mémoire, qui poursuivait Orange pour non-respect de la licence libre d'un de ses logiciels, et Orange a enfin été condamné. Qui veut commencer là-dessus?
Bon, vu les regards, je me lance. Hein.
C'est toi, bah oui, bien sûr.
Effectivement, ça commence en 2005 avec un appel d'offres qui est gagné par Orange pour un certain lot. Sauf que Orange va proposer quelque chose, IDPM, je ne sais plus ce que c'est que l'acronyme, mais je peux le retrouver dans le jugement de 22 pages que j'ai à côté de moi. Voilà, et qui va utiliser une bibliothèque logicielle qui s'appelle LASSO. Pareil, c'est un autre acronyme, et si vous voulez vraiment la définition, je peux aussi le chercher dans le jugement puisque c'est marqué. Sauf que, ils vont pas respecter la licence et qu'en 2011, Entrouvert va porter plainte.
Alors peut-être l'occasion de préciser, parce qu'en fait, dans le logiciel libre, il y a souvent des gens qui disent libre de droit. Mmh. Mais en fait, le logiciel libre, c'est pas libre de droit. Donc peut-être déjà expliquer rapidement, parce qu'en fait, ça, on pourrait faire une émission entière là-dessus. D'ailleurs, on a déjà fait une émission sur ce sujet. Alors je me souviens plus du numéro, mais on va me retrouver ça en régie. mais alors, rapidement sur quoi est basé, sur quoi sont basées en fait la, notamment les licences libres, le droit d'auteur. Peut-être J, qui est docteur en informatique et dessinateur, conventionné secteur 42. Peut-être un rappel rapide. Pourquoi justement, en fait, Entrouvert a pu faire attaquer Orange?
Alors en fait, des licences libres, il y en a plein déjà. Donc celle-ci, c'est la GPL, c'est celle qui est la plus, on va dire, une des plus restrictives. Enfin bon, c'est une façon de parler. Mais en tout cas, il y a une clause dedans qui est très importante, qu'on appelle le copyleft. Alors c'est un peu un jeu de mots avec copyright. Mais copyleft, c'est-à-dire ça laisse ça laisse la copie. Enfin, en gros, on garde la licence. C'est-à-dire que si moi, je prends un logiciel libre qui existe sous licence GPL et que je fais quelque chose avec, que j'en fais une version dérivée, quelque chose comme ça, eh ben, la licence m'oblige à repartager... Enfin, elle ne m'oblige pas à repartager les modifications. C'est-à-dire que si je ne partage pas ces modifications, je fais ce que je veux, quelque part. Si c'est sur mon ordinateur à moi, ça regarde personne. Mais si je partage ces modifications, si je publie ce logiciel, il doit être publié sous la même licence, c'est-à-dire sous licence GPL, donc sous licence libre. Qui est déjà une des clauses que n'a pas respecté Orange. Je crois qu'il en a pas respecté d'autres, hein, si j'ai bien compris. C'était
4,
un peu le grand chelem.
Hein,
voilà. Mais voilà, donc l'idée, c'est qu'ils ont fait une version dérivée de l'asso pour leur propre truc, qui pour le coup était une version publique, puisque ça a servi à... c'était le portail Mon Service Public, hein, donc c'est quand même un truc...
Oui, il y a pas mal de gens qui
l'ont
su. Hein.
Et ils n'ont pas republié leur modification sous licence libre, et ils n'ont pas fait de leur propre logiciel... un logiciel sous licence libre, donc ça contrevient à la licence GPL, en tout cas.
Voilà, et donc, alors l'émission en question sur les licences libres, c'est l'émission 24. Alors, comme on a un superbe site web, il suffit d'aller sur libreavoue.org/24 et vous retrouvez ou sur le site de la radio causecommune.fm, là vous recherchez licence libre. Donc, rappelez simplement en fait que le logiciel, c'est une création de l'esprit. Dans la plupart des pays, c'est protégé par le droit d'auteur. Le droit d'auteur est un droit d'interdire, donc il faut des licences qui expliquent quels sont les droits qu'on donne. Les licences libres donnent les quatre libertés fondamentales du logiciel libre, hein, utilisation, étude, modification, redistribution. Et comme tu le dis, il y a un certain nombre de licences qui appliquent ce qu'on appelle la gauche d'auteur, le copyleft, qui impose, alors c'est pas restrictif, au contraire, c'est une persistance des libertés, c'est-à-dire que chaque version modifiée et redistribuée doit rester sur les mêmes licences. Et c'est ça, en fait, qu'Entrouvert reprochait à Orange, c'est d'avoir pris son code sous licence copyleft, donc la plus célèbre qui est la GNU GPL, de l'avoir intégré dans leur outil et de ne pas avoir respecter ces règles. Alors quand on dit plus de 10 ans, j'ai vérifié, la première fois où Entrouvert s'est rendu compte de, enfin, a eu des doutes sur ce que faisait Orange, c'était en 2006, donc ça fait 17 ans. Donc le temps d'avoir les preuves, de commencer à faire les différentes démarches, etc. Alors ce qui est assez effrayant quand même, peut-être Isabelle là-dessus, c'est que finalement on a un mastodonte, parce qu'Orange c'est monstrueux. Alors ils ont différents services évidemment, quoi. Donc là c'est le service Orange Business Services qui est attaqué, donc les personnes qui font des développements logiciels. Finalement, on peut se dire, en fait, ils sont sans doute dit qu'Entrouvert allait ne rien faire, en fait.
Allait lâcher. Laisser tomber. Qu'ils étaient les plus gros, les plus forts, et comme ils le font dans des tas d'autres questions. Moi, ce qui m'interroge quand même, parce que tu disais que c'était pour mon service public, ce qui m'interroge, c'est pourquoi c'était que Orange qui a été attaqué. C'est-à-dire qu'en fait, l'objet de ce qu'ils ont fait, eux, de ce qu'ils ont développé, c'était quoi ? Je suis pas allé moi sur le, j'en sais rien, j'ai pas regardé. C'était un morceau d'application.
Ouais, en fait, le détail c'est de là. Orange proposait une plateforme et utilisait le logiciel Lasso, qui en fait c'est un service d'authentification qui permet de s'authentifier à plusieurs sites différents avec un seul compte.
Et donc du coup, ça, pourquoi est-ce que ça n'est que Orange qui est attaqué là-dessus et pas, j'en sais rien, moi, l'État, le gouvernement, je veux dire.
Parce que tout simplement, c'est eux qu'on fait tout simplement le développement. Probablement.
Voilà, donc c'était une question de le libre, du coup, pourquoi est-ce qu'il n'attaque pas aussi ceux qui ont utilisé les choses et pas simplement celui qui a développé ?
Pour moi, je pense que ceux qui l'ont utilisé ont payé Orange pour avoir cette plateforme-là. Donc c'est Orange qui a récupéré un max
de... Tu sais, c'est la même histoire que les sous-traitants dans le bâtiment, je trouve. Enfin, pardon. c'est pas exactement pareil, mais c'est quand même ça. Est-ce qu'on est responsable que quand on est vraiment strictement acteur de la chose, du méfait? Donc là, c'est Orange qui est acteur du méfait, dont acte. Mais quand on le soutient, quand on le laisse passer, quand on l'utilise, est-ce que du coup, c'est pas grave? Tu vois, je pense à la question de la responsabilité que on peut avoir les uns les autres, des structures et des sociétés. Et là, décidément, quand même, les ministères ont par rapport à ça.
Après, je crois qu'il y a aussi une question de confiance. Je veux dire, les gens qui ont accepté ce marché public, ils avaient confiance d'Orange, parce que tout le monde connaît Orange, bien sûr.
Mais bien
et
sûr.
Orange est honnête, c'est évident. Voilà. Oui. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas à ce niveau-là. Cette licence-là n'a pas été respectée. Ils se sont fait des sous sur le dos d'une petite entreprise. Exact. Moi, ce qui m'a traumatisé dans la lecture du jugement que Fred nous a envoyé, alors pas du tout pour l'émission, hein, juste au sein de l'April, c'est le jugement de 22 pages, c'est que Entrouvert a dû prouver l'originalité de son logiciel.
C'est ça.
Il a dû prouver qu'ils avaient réfléchi et qu'ils avaient fait les choses correctement. Quoi.
Oui, mais alors ça, c'est normal, entre guillemets, parce que la caractérisation de l'application du droit d'auteur, c'est justement l'originalité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas parce que tu écris trois lignes de code que c'est forcément protégé ou régi par le droit d'auteur. Il faut que ce soit original. Donc cette notion d'originalité, de toute façon, dans tout le cas de contrefaçon de logiciel, il faut démontrer l'originalité.
Oui, mais si le truc n'avait pas été original, mieux fait que tous les autres, ils ne l'auraient pas choisi pour l'incorporer à leur plateforme.
Oui, d'accord.
Donc c'est de la mauvaise foi.
Non, mais ça veut simplement... Ça veut simplement dire qu'il y a certains bouts de code qui ne sont pas protégés par le droit d'auteur, régis par le droit d'auteur, parce que tout simplement ils sont trop simples, entre guillemets. C'est cette notion-là.
Il y avait une anecdote comme ça sur, alors c'est pas du tout du logiciel, mais c'est pareil, c'est le même principe. Tu avais des internautes qui avaient attaqué TF1, je crois, parce qu'ils avaient utilisé des photos pour une émission de bouffe de TF1. Ils avaient pris la photo du plat qu'eux avaient fait. Et la justice avait donné raison à TF1 en expliquant que les photos ne constituaient pas quelque chose d'original, puisque c'était une photo de salade comme il y en avait des millions. Et donc le droit d'auteur ne s'appliquait pas. Donc il y a vraiment un truc quand même comme ça dans le droit d'auteur auquel il faut faire gaffe. Quoi.
Alors, sur le salon Peertube, on nous fait une remarque ou une question que je vais relayer. Donc, est-il à envisager qu'Orange n'a rien dit aux décideurs financeurs qui n'ont pas forcément demandé à avoir les licences logicielles? Donc en gros, est-ce que...
C'est un peu la remarque par rapport
à l'État. Est-ce que l'État s'est préoccupé de savoir ce que faisait Orange?
C'est une excellente bonne question, mais est-ce qu'on a la réponse? Je ne suis pas sûr.
Il y a la question légale, en fait. C'est qu'il y a probablement des subtilités légales qu'on n'a pas. Enfin, tu vois, par exemple, imagine dans le droit, tu as le recel, par exemple, qui est le fait d'acheter quelque chose qui a été volé, si je ne dis pas de bêtises. Moi, ça, c'est pareil. Si tu ne sais pas que le truc a été volé, comment ça se passe? Faudrait demander à des avocats, je ne sais pas trop.
Alors, sauf qu'on va quand même préciser que quand il y a plus de 11 ans de procédure, c'est qu'il y a eu appel, cour de cassation et une décision de la Cour de justice européenne, de l'Union européenne, qui a rappelé qu'en fait, ça se réglait sur le champ de la contrefaçon, de la contrefaçon et non pas du parasitisme. Donc en fait, Au départ, peut-être qu'Orange pouvait se dire, bon, on savait pas trop, on a un machin, mais à un certain moment, en fait, ils ont persisté quelque part à aller dans le procès. Et d'ailleurs, que peut-être, ils vont encore agir en cassation sur un autre, pour une autre raison que la simple contrefaçon. Et encore une fois, Orange fait à côté des choses qui est assez étrange, enfin, pas forcément étrange, parce que ces structures-là sont tellement grosses qu'à côté de ça, ils font des choses bien dans le logiciel libre. Mmh. Voilà, on se peut se demander si finalement les gens qui font des choses bien dans le logiciel libre, on n'aurait pas dit Orange Business Services, ben, pourquoi vous faites ça? Ah, laissez tomber, parce qu'en plus, vous avez légalement tort, vous avez éthiquement tort, et là, vous mettez en plus en danger une entreprise du logiciel libre qui est une coopérative qui fait 30 ou 40 personnes, quoi.
C'est ça.
Moi, ce que je n'ai pas compris dans la démarche d'Orange, c'est qu'ils font appel à un expert en informatique, qu'ils ont dû payer une fortune, qui n'a même pas lu le code source du logiciel. Mais comment vous voulez que le mec il soit crédible après un témoignage pareil, quoi?
Alors, je relaie une autre réaction par rapport à ta remarque, Isabelle, de Yo, sur le salon Peertube. Quand un client fait appel à... Alors par contre, je me suis mal positionné pour lire entièrement, mais quand un client fait appel à un prestataire Orange, il n'a pas donc forcément la connaissance technique ni les capacités à comprendre les bibliothèques et les licences incluses dans le produit logiciel qu'il a acheté. Le client est donc plus une victime, à mon sens, et ne doit pas être condamné.
Ouais, moi ça, pour moi ça se discute en termes éthiques entre guillemets, ça se discute la question de la responsabilité. Je continue à penser que je comprends hein, l'idée qu'on va pas aller regarder dans le détail ce que tu disais toi sur des, on n'est pas à l'abri de ce genre de choses. Pour autant, s'il était plus dans la société possible d'acter cette responsabilité que nous avons tous, peut-être que des tas de choses se feraient pas ou se feraient moins. C'est ça que je voulais dire.
Alors comme c'est Orange le cas, on va rappeler, parce que je crois que c'est tout à l'heure Muman sur le salon Peertube qui l'a rappelé aussi. C'est pas la première fois que Orange est entre guillemets impliqué dans ce genre de choses, et notamment tous les fournisseurs d'accès de boîtes internet, hein, Free et compagnie. Il faut simplement savoir que la plupart de vos boîtiers internet sont composés notamment de briques logicielles libres, et qu'il y a quelques années il y a eu des affaires sur lesquelles en fait notamment Free qui voulait au départ ne pas justement respecter la fameuse licence copyleft GNU GPL, Orange aussi qui se faisait un petit peu tirer l'oreille, donc voilà, ouais, ils ont été contraints effectivement de publier la liste des logiciels qui étaient des logiciels libres qui étaient intégrés dans ces boîtes internet, dans ces box. Voilà, donc c'est pas la première fois. Voilà, et comme le dit sur l'autre salon, vous voyez, je suis quand même deux salons. Ça c'est le salon web de la radio. Orange a en gros livré une boîte noire, donc l'acheteur entre guillemets, donc l'État, n'avait pas accès au code source. Par contre, on pourrait effectivement, comme le dit Étienne, reprocher à l'État d'acheter des boîtes noires sans se préoccuper de ce qu'il y a. Magali, vas-y. Voilà.
Moi, ce que je voudrais, c'est que l'État, au lieu de faire des appels marché public et qui confie à des entreprises, alors là c'est français donc tant mieux, mais bon des fois c'est d'autres nationalités, bah qu'ils investissent en interne pour former des gens en interne qui feraient des logiciels libres internes, hein, et il y aurait plus de problèmes là.
Est-ce que tu essayes de faire des liens avec un autre sujet que nous avons pour...
tu veux embaucher des fonctionnaires, mais ça c'est passéiste.
Mais ouais, je vais embaucher des fonctionnaires qui font des logiciels libres, qui soient auditables, qui soient récupérables, qui soient partageables à tout le monde. Je sais, c'est totalement utopique, mais je serais pas président de la Pride si j'avais pas cette envie là.
Moi juste un truc aussi sur le montant, donc ils ont été condamnés à verser 650 000 euros à Entrouvert, hein, donc Orange. J'ai regardé un petit peu, Orange c'est 44 milliards d'euros de chiffre d'affaires et un bénéfice net de 2,5 milliards d'euros. Ouais. Donc par rapport au chiffre d'affaires, ça correspondrait à 0,001% de leur chiffre d'affaires annuel. Donc l'équivalent, j'ai calculé, pour une personne au SMIC, ce serait une amende de 25 centimes. Voilà.
Ouf.
Donc, et tu divises pas par le nombre d'années effectivement de procédure, et c'est ça qui est honteux, quoi.
Il y a des chiffres qui sont sortis. Hein.
Et il y a une question sur le chat en binaire, c'est écrit comment? C'est Étienne. Hein.
Je sors ma calculatrice, je t'appuie.
Et tu veux dire que c'est un peu comme les amendes que met la CNIL à Google et compagnie, c'est peanuts.
C'est bien inférieur, quoi.
C'est ça, en fait, c'est ce qu'on disait. Bah, combien ils ont gagné avec l'appel d'offres de mon service public, quoi.
Ouais, je crois que dans le jugement, il y a marqué 8 millions, mais que ça concerne juste une partie d'un lot sur une année et ainsi de suite. Donc c'est voilà.
Et on va préciser que pour l'instant, Entrouvert n'a pas communiqué, hein, donc ni Orange d'ailleurs.
Hein. Je crois qu'ils n'ont pas le droit, non?
Ah bah, si, ils ont le droit bien de communiquer, bien sûr que si.
Ils ont été déboutés de leur demande de publication. Alors après,
c'est autre chose,
pas.
Ça. C'est la publication de ils ont le droit de commenter. Donc pour l'instant, ils n'ont pas commenté. Donc nous, l'April, nous a demandé de faire une communication. On attend en fait qu'Entrouvert communique aussi, parce que voilà. Donc voilà, je pense qu'ils attendent aussi de voir un petit peu les résultats qu'ils peuvent en tirer. Côté Orange, évidemment, si Orange nous écoute et veut nous appeler, qu'ils peuvent nous appeler, il n'y a pas de souci. Hein, 09 72 51 55 46, 09 72 72, 51, 55, 46. Voilà, on montrera peut-être qu'il y a des gens qui... Enfin, on sait qu'il y a des gens qui écoutent l'émission parce qu'on les voit plein là. Ouais. C'est ça, on leur fait coucou d'ailleurs, hein, voilà. Voilà, ok. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur cette partie-là
bah non, on va suivre la suite.
Ah, bah, c'est, jamais, comme tu le disais, c'est un dossier qu'on suit depuis le début, donc c'est un dossier sur lequel on a été informé, pas directement impliqué depuis le début. Et encore une fois, comme je l'ai dit sur Mastodon, hein, on félicite Entrouvert pour cette ténacité absolument incroyable et honte à Orange pour ce comportement. Tu voulais rajouter quelque chose?
Oui, juste pour finir sur une note positive, parce que je disais que c'était pas une grosse amende, mais c'est quand même bien fait pour leur tronche à Orange. Et ça fait pas de mal de temps en temps d'avoir des petites piqûres de rappel sur les licences libres, qu'on fait pas n'importe quoi avec le logiciel, c'est bien. Quoi.
Exactement.
Après, je tiens à rappeler que chez Orange, il y a des gens qu'on connaît, qui font des choses bien, qui ont monté une communauté intéressante et qu'on apprécie énormément. Et je pense que ces gens-là n'y sont pour rien, cette mauvaise image de l'entreprise Orange. Donc, je veux les saluer et leur dire qu'on les aime quand même.
Bah, ils restent quand même chez Orange, quoi.
Ça, c'est fait.
Bon, ceci dit, je dis ça, mais peut-être qu'effectivement, on aura cette partie d'Orange à jour dans l'émission, notamment dans le cadre d'un consortium de grandes entreprises qui essayent de faire... pour le coup du logiciel libre de façon correcte. Voilà. Mais si encore une fois Orange veut, l'autre partie d'Orange, c'est-à-dire Orange Business Service, veut discuter avec nous de la partie licence et pourquoi ils n'ont pas respecté ces licences logicielles. Voilà. Mais bon, plus, je pense qu'on va faire un sujet vraiment sur cette notion de non-respect des licences parce que c'est pas les seuls cas. Faut savoir qu'il y a beaucoup de cas qui existent mais qui vont pas jusqu'au procès parce que tout simplement, bah, en fait, ça se règle non pas à l'amiable dans le sens financier. C'est ça, c'est vrai que la personne qui se dit, bah, tiens, j'ai fait une erreur, je la reconnais, je diffuse les sources et là, Orange, dans un cas précis où je sais que j'ai fait une erreur mais je continue parce qu'en face de moi, j'ai une PME, PMI, je sais que je gagnerai à la fin. Bon, ben c'est, finalement, la fin, c'est quand même le petit qui gagne. Alors, il y a un commentaire. Je pense que dans ces genres d'affaires, ce qui est important, c'est plus la communication en bad actor d'Orange, plus que la réelle prune financière. Bon, on verra ce qu'Entrouvert en dit par rapport à la prune financière, effectivement, aussi.
Ça fait du bien quand même de recevoir une prune financière comme ça.
Voilà. Alors, moi, j'avoue que j'ai fêté ça avec une bonne bière belge. Parce qu'à Entrouvert, ils aiment bien, notamment, il y a une partie en Belgique. Donc voilà.
T'as repris deux fois des moules, quoi.
Alors, Jeff fait une référence. Alors, c'était pas des moules, c'était des nouilles, je crois. Pierre Desproges.
Non, c'est des moules.
Ok, d'accord. Bah, tu vois, alors, voilà. Bon. Ok, allez, on va changer de sujet. Alors, je vous préviens tout de suite qu'on va pas aborder tous les sujets parce qu'on a déjà passé pas mal de temps sur. Mais en même temps, on fait ce qu'on veut.
Ouais, mais c'est une bonne nouvelle.
Alors, peut-être qu'on l'a. Alors, c'est mon deuxième sujet à moi. Peut-être que là, ça va être beaucoup plus rapide parce que peut-être que vous allez me dire que ça n'a aucun intérêt.
Ça n'a aucun intérêt.
On va voir. Alors, deuxième sujet. Marina Ferrari, la nouvelle secrétaire d'État chargée du numérique. Alors oui, peut-être que vous ne saviez pas que dans ce gouvernement, enfin dans les gouvernements, il y a des gens qui sont des fois en charge du numérique. Donc avant, c'était Jean-Noël Baron, donc du MoDem,
qui était ministre.
Alors justement, qui était ministre, tu vas pouvoir préciser. Donc suite au changement de première ministre en premier ministre, pendant un certain temps, il y a eu personne. Jean-Noël Baron, lui, est parti à l'Europe de mémoire, et donc secrétariat d'État chargée du numérique, il y a une nouvelle personne qui est elle aussi du MoDem, qui s'appelle Marina Ferrari, que globalement on connaissait pas véritablement dans le monde du numérique et autres. Donc il y a un article Numérama, hein. Toutes les références qu'on peut citer sont sur la page de l'émission, hein, sur libravou.org ou sur causecommune.fm. Alors première remarque d'ailleurs, Magali, Jean-Noël Barrot était ministre délégué, Marina Ferrari est secrétaire d'État. C'est quoi la différence ?
Et ben du coup, il me semble que comme elle est secrétaire d'État, elle ne pourra pas assister à tous les conseils auxquels les ministres assistent. Elle sera là que à ceux qui la concernent. Donc déjà, elle est limitée dans la stratégie et elle peut pas imposer le numérique sur des voilà. Bref. Donc et puis, enfin, je trouve que c'est un super mauvais message qu'envoie le gouvernement de faire passer le numérique de ministre à secrétaire d'État, quoi. Ça veut dire que c'est moins important.
Normal, c'est une femme.
Ah, mais c'est encore
comme
plus.
Ça, les payer moins.
Bah, ouais, mais c'est pire, ça veut dire que si c'est une femme, elle ne mérite pas d'être une ministre, elle mérite d'être une
secrétaire.
D'ailleurs,
elle-même, elle a tout de suite dit je vais travailler avec Bruno Le Maire. Elle a dit tu vois, elle va pas. Elle n'est pas capable.
Elle
n'est
pas capable.
Voilà, ça, c'est quand même ministre de référence.
Alors, moi, j'ai une question pour vous. Toi, tu dis que c'est parce que tu penses que c'est une femme. Une autre raison, c'est parce que finalement, le numérique, au gouvernement, il s'en fout, donc il rabaisse. Troisième possibilité, vu que c'est arrivé après la tragicomédie de François Bayrou, je rappelle que Marina Ferrari et MoDem, est-ce que c'est une façon de faire payer à Bayrou aussi son tragicomédie en rétrogradant l'une de ses ministres ou c'est une erreur de lecture?
J'en sais rien. Puis alors ça, moi, par contre, quand tu dis qu'on ne la connaissait pas du tout, moi il me semble que c'est elle qui a poussé ou qui a soutenu l'affaire là, du logiciel, du machin, le truc anti-Covid.
On est dans une émission, donc, on n'est pas sur CNews, on n'est pas sur BFM,
non, mais du coup,
on affirme des choses correctes. Elle a bossé qu'elle a été responsable des ressources humaines d'une entreprise, d'une start-up qui effectivement fait des applications, dont l'une des applications était tous anti-Covid. Voilà. Mais entre l'occurrence, quand je dis qu'on la connaissait pas, on la connaissait pas avant.
Ce que je voulais dire par là, simplement, non, c'était pas une nouvelle pour une nouvelle comme ça, c'était juste pour dire que c'est quand même quelqu'un qui a œuvré d'ores et déjà, même si elle n'était que aux ressources humaines, etc. Elle était quand même dans une boîte qui avait une certaine logique et une certaine vision du numérique. Donc ça nous donne ça comme message quand même, indépendamment de la question de secrétariat d'État, ministère, etc. Ça nous envoie ça avec le OK, on est reparti, on continue et on va poursuivre et continuer sur des injonctions et non pas sur des choses génialissimes, quoi. Enfin, je vois pas ce qu'on a de grandes choses à attendre de cette nomination.
Bah, rien.
Bah, je sais pas depuis quand on attend quoi que ce soit de la nomination de quelqu'un au gouvernement, quoi.
D'un ministre macroniste.
Bah si, pour savoir combien de temps il va rester, par exemple, tu vois.
Ah, Attal, ouais. À l'éducation nationale. On lance les paris.
Ok.
Vas-y, Magali. C'est pas non plus n'importe qui. Je suis sûre que les gens en Savoie la connaissent, puisque elle était assistante adjointe d'un maire. Elle a été députée. Enfin bref, elle est connue localement.
Ouais. Ouais, je vais forcément pas être gentil avec ce genre de. Enfin, pour moi, c'est vraiment le tiercé de la communication politique qui est vraiment basé sur du vent. Quoi. Justement, t'as le côté local. Effectivement, on s'est partagé un article du Dauphiné, donc du coin. C'est une gloire locale comme ça. Bon, moi, je m'en fous que ce soit une gloire locale. Je voudrais quelqu'un qui ait des compétences, qui ait de l'éthique, je sais pas. Voilà, elle est moderne parce qu'elle a bossé en start-up. Bon, effectivement, c'était celle qui a fait tout anti-Covid. Moi, c'est pas mon modèle non plus. Et puis, alors, le côté expertise parce qu'elle a bossé dans une start-up qui fait du numérique. Enfin, elle était au RH, quoi. Ça, c'est comme si tu disais, on va prendre le gardien de nuit de l'entrepôt Amazon, il connaît bien le numérique, quoi.
Oh non, enfin, le gardien de nuit, les RH.
Bon, bah,
non.
Super, quoi. Non, mais.
C'est pas gentil pour les gardiens de nuit.
Je vous rappelle que vous avez si vous êtes pas con, vous avez des petits. Comment ça s'appelle?
Des petits cartons.
Des petits cartons, si vous voulez signaler, effectivement, qu'un invité va trop loin. Mais tu as le droit.
C'est vrai que l'hexadécimal, c'était exagéré.
Alors, je précise que sur le salon web, Marie-Oudine nous dit Bayrou a demandé des gens de province. C'est-à-dire, voilà, peut-être que voilà. Bon, en tout cas, bon, on la jugera sur les actes, hein, sur les faits, hein, a priori. Magali.
Du coup, moi, j'aimerais lui poser des questions, comme ça, si elle nous écoute.
Si elle nous écoutait,
j'ai plein de questions pour elle.
Alors, au moins une question, laquelle?
Ah, une seule.
Ah ben, vas-y, deux. Allez.
Allez, je voudrais savoir quelle est sa position sur les open bar, genre défense, armée. Parce que franchement, nous, on suit le dossier d'Open Bar qui utilise des produits de Microsoft depuis une éternité. Donc, j'aimerais bien savoir si elle va changer ça, parce que on serait bien qu'elle s'y mette. Et puis, son avis sur le cloud, puisque ce serait bien que ça revienne en France, tout ça. Donc, est-ce qu'elle va continuer à essayer de mettre en place ce soi-disant cloud souverain? J'adore ces termes. De cloud souverain que son prédécesseur voulait mettre en place, et j'étais limitée à deux, donc je m'arrête là.
Mais tu peux aller à trois. T'es la présidente. Hein.
Ah ouais, c'est vrai ce que je veux. Alors, du coup, j'aimerais lui faire un petit message si elle pouvait mettre à jour sa page Wikipédia. Puisque n'importe qui peut contribuer à Wikipédia, ça serait bien que des gens, dans ces cas-là, dans son entourage, je suis sûre qu'elle a plein de gens qui seront payés à faire ça, mettre la page Wikipédia à jour, puisque elle est secrétaire d'État chargée du numérique.
Tu veux dire laquelle page?
Mais il manque quoi comme information?
Sur sa page Wikipédia, parce que moi je suis allée sur sa page Wikipédia, il n'était pas encore marqué qu'elle était secrétaire.
Là, tu m'étonnes parce que je crois que Pierre-Yves Baudouin a fait la mise à jour de toutes les pages, mais bon, peut-être que bon. Écoutez, on vérifiera. Écoutez, il y a des gens qui nous suivent en direct. Connectez-vous sur la page Wikipédia. Donc, Marina Ferrari, dites-nous si elle est effectivement annoncée comme secrétaire d'État au numérique. Voilà, ça m'étonne un petit peu que Wikipédia soit pas.
En tout cas, c'est une famille qui a l'air d'être assez connue.
Ok, c'est bon pour vous?
Ouais.
Ah, c'est bon.
On va pas tout de suite aborder le sujet d'après. Voilà, vu que tu viens de parler des open bar Microsoft Défense, je pense qu'on va faire croire qu'il y a une logique dans cette émission.
Ouais.
Je suis même pas sûr. Alors je préviens en régie qu'on, je sais pas si on va faire une pause musicale, parce que voilà, on verra. Mais bon, mais par contre, la pause musicale choisie pour le sujet principal sera après, parce que c'est celle qui a été choisie par Étienne. Nouveau sujet, un rapport parlementaire sur la cybersécurité alerte sur le piège Microsoft. Ça, c'est Mag, c'est toi.
Ouais, en fait, c'est un des sujets qu'on suit à l'April. Bon, alors, le piège Microsoft, tout le monde le connaît, c'est cette dépendance qu'ont les différents ministères et administrations à n'utiliser que les logiciels de Microsoft. Alors, non, pas que, mais beaucoup. On essaye d'avoir un maximum d'informations en faisant des demandes à la CADA, en encourageant fortement les députés à poser des questions au gouvernement pour savoir combien ça coûte réellement. Bon, on n'a pas toujours de réponse, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on suit depuis... je pense que Étienne pourrait le savoir mieux que moi, mais j'ai l'impression que moi je suis à l'après depuis 2007, c'est toujours été un sujet assez important. Et donc là, il y a un rapport qui a été fait, il y a une mission, alors une commission flash sur les défis de la cybersécurité qui a été mise en place en mars 2023. Il aura fallu un peu moins d'un an pour faire un rapport d'information. Ça a été rapporté par Anne Le Hénanf et Frédéric Mathieu qui sont les deux rapporteurs de ces dossiers. Et donc, ils pointent cette dépendance importante aux GAFAM qu'ils appellent le piège Microsoft. Je continue.
Bah oui.
Non, peut-être juste une précision, parce que tu parlais de 2007. Il s'est passé un truc en France en 2007. Il y a sans doute un lien.
L'élection de Sarkozy.
Voilà. Et effectivement, ça, sur la partie Microsoft défense, c'est-à-dire que très clairement, les enquêtes qu'on a pu faire et complétées par des enquêtes de journalistes, notamment Cache Investigation, confirment que avant 2007, il y avait notamment pas mal de militaires qui œuvraient en faveur du logiciel libre, et qu'à partir de 2007, notamment l'arrivée effectivement de Nicolas Sarkozy en tant que président de la République, il y a eu un changement. Là, vous allez sur le site de l'April, april.org, vous cherchez Open Bar Microsoft défense.
Ah, oui.
Défense, vous trouverez toutes les informations utiles. Bien.
Moi, j'ai déjà fait une BD dessus, une chronique dessus. C'est pareil, hein, c'est un truc que je commence à maîtriser un peu. Moi, ce qui me fait rire, surtout dans ce rapport, c'est... Donc, en gros, l'idée, c'est que ils ressortent du chapeau ce truc de l'OS souverain. Là, on avait beaucoup déconné là-dessus.
OS, c'est quoi, OS?
Operating System, donc système d'exploitation en français. Typiquement, Microsoft Windows, Mac OS sont des systèmes d'exploitation connus. Évidemment, le nôtre, qu'on défend beaucoup, c'est plutôt GNU Linux. Et le rapport dit notamment qu'à l'heure actuelle, il n'existe pas de système d'exploitation souverain en Europe. Et alors, va falloir définir ce qu'on veut dire par souverain, parce que bon, c'est peut-être un mot aussi qui veut dire tout et n'importe quoi. Mais enfin, moi, je le comprends dans un comme l'armée, c'est quelque chose où on va savoir que va pas y avoir des accès privilégiés pour une puissance étrangère, par exemple la NSA, enfin c'est pas une puissance étrangère, mais voilà, ce genre de truc. Bah si, dans ce cas-là, il y a un système qui existe, justement, c'est GNU Linux, c'est un système qui est ouvert, il est donc auditable, il est même modifiable, il est adaptable, donc il existe. Ok, il fait pas exactement peut-être le café comme veut le ministère des armées, mais il existe.
Et sur le salon PeerTube, on nous précise qu'il y a aussi la version pour la gendarmerie nationale, alors qui est une version basée sur Ubuntu, qui s'appelle Genbuntu. Mmh. Et la gendarmerie nationale, depuis, je crois, 2006, travaille sur ce sujet de mémoire. Et encore une fois, on a reçu le lieutenant-colonel Stéphane Dumont. Donc sur libreavoue.org, vous cherchez Stéphane Dumont, qui était une des personnes à avoir mis en place cette solution. Donc c'est possible.
Ah oui,
vas-y.
Et d'ailleurs, c'est d'autant plus possible que la gendarmerie, si je dis pas de bêtises, c'est l'armée aussi. Quoi. Enfin, c'est une. C'est un des corps de l'armée, quoi.
C'est une branche armée qui est maintenant au ministère de l'Intérieur aussi, maintenant.
Ah, ok.
Depuis quelques temps.
Ils ont fait un paquet.
Enfin bon, et puis voilà. Et donc après, on nous dit que les coûts pour migrer seront trop forts. Mais en fait, ils sont trop forts à cause du fait d'avoir choisi Microsoft. C'est-à-dire, si tu prends un truc avec des formats fermés dans tous les sens, le jour où tu veux les migrer sur des formats ouverts, c'est compliqué. Alors que si t'avais été directement sur des formats ouverts, t'aurais pu migrer de GNU Linux à FreeBSD, je sais pas quoi, ce qui sont d'autres systèmes d'exploitation libres. Hein. GNU Linux n'est pas le seul, c'est juste le plus connu. Enfin bon, voilà quoi. Donc c'est. Je pense qu'on en parlera aussi sur un autre sujet, sur les données de santé, mais il y a toujours ce truc de l'État qui se comporte vraiment comme un consommateur en disant je suis dans un magasin, je ferme les yeux, quels sont les systèmes d'exploitation?
La stratégie d'écrire des choses pareilles? Parce que tu vois, tu dis effectivement il faudrait définir qu'est-ce que c'est que souverain, donc ok, tu le fais là et tu décris, en fait ça le serait, ils le savent, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne le savent pas, puisque, comme Fred vient de dire, se rappeler, il y a un historique, il y a des choses qui ont été faites, etc. Et donc je n'arrive pas à comprendre quelle est la stratégie pour de vrai d'une telle... façon de
alors
faire.
Moi je serais assez cynique, je pense qu'il n'y a pas spécialement de stratégie, il y a des gros intérêts financiers tout simplement, je pense que ça va au-dessus de la stratégie, c'est-à-dire que on a Microsoft qui fait énormément de lobbying et ça marche bien, je pense, je suis peut-être très
c'est
cynique,
hein,
mais j'ai l'impression que c'est, ouais, il y a pas mal de ça quand même. Ouais.
Je peux être bisounours.
Vas-y.
Allez, je vais être bisounours. Puis il y a aussi le fait qu'on ne veut pas sortir de sa zone de confort, les gens ils utilisent ça, ils font ça, ça va être compliqué pour eux, il va falloir investir du temps, il va falloir les former,
Ouais, enfin c'est l'armée quoi.
Non, ouais c'est ça. C'est,
je veux dire, c'est pas, une administration à perpète les oies, qui, ils sont tous sur un Windows XP, d'accord, mais c'est l'armée
non.
quoi.
Mais c'est, bon. Ouais. Non, vraiment, je comprends pas. Je suis assez estomaqué de ça, de cette capacité à continuer d'affirmer des trucs alors que c'est tout le monde sait que c'est pas vrai. Et donc, moi, je veux bien des lobbying, ok, des affaires financières, ça veut dire quoi? Ça veut dire on dirait que tout le monde est corrompu. Non, tout le monde n'est pas corrompu dans cet univers. Je ne comprends pas qu'est-ce que les fonctionnaires, tu vois, dans l'administration, pourquoi ils bougent pas plus?
Alors, je pense pas que les fonctionnaires soient corrompus, ça se saurait. Par contre, peut-être que les décideurs. Ah, j'ai enlevé ma casquette bisounours. Peut-être que les décideurs, ceux qui prennent vraiment les décisions, ceux qui sont censés lire des rapports où on leur dit c'est mal, mais qui continuent à s'obstiner à faire du Microsoft, peut-être que là il y a quelque chose à... Parce que c'est pas le premier rapport qu'on reçoit qui nous dit arrêtez cette dépendance aux GAFAM. Et pourtant, malgré tous les rapports, malgré tous les... je sais pas...
Après, tout dépend ce que t'appelles corruption. La corruption, c'est pas forcément on met des valises de billets dans la poche de quelqu'un. Enfin, il y a tout le temps des copinages dans tous les sens. Moi, je me souviens de Christine Albanel qui avait bossé sur la loi Hadopi. Et puis après, elle avait été mutée. Enfin, quand elle avait été mutée, c'est pas exactement ça. Mais quand elle avait cessé d'être ministre, elle avait été bossée chez Orange, quoi. Donc,
Christine Albanel, c'était à l'époque ministère de la Culture.
Au moment de la loi Hadopi. Donc ça, c'était en 2009.
2008, 2009, des trucs comme ça. Et qu'après, elle a fini chez nos amis d'Orange. Donc,
partie de la corruption. Hein.
Oui,
dans ce cas-là, je pense effectivement, sans vouloir faire tout ce pourri, qu'il y a quand même un niveau assez élevé de copinage de ce genre au sommet de l'État. Quoi.
Des partenariats.
Il suffit de lire le rapport des multinationales qui a été remis par l'Observatoire des multinationales, je crois que c'était l'année dernière, où à un moment donné, dans ce rapport, dans les dernières pages, ils nous disent, alors vous rappelez de tous les gens qui étaient placés à tel endroit dans le ministère, et ben maintenant ils bossent à telle entreprise privée, telle autre entreprise privée. Et là, on se rend compte que tout le monde se connaît, tout le monde est bien placé après, et comment tu peux lutter contre ça, quoi? À part en dénonçant?
C'est ça, en dénonçant et puis en affirmant justement, en continuant de poser la question. C'est-à-dire que sinon, dire on comprend, c'est parce que, effectivement, soit tu glisses sur le terrain de tout ce pourri, et là tu alimentes on sait quoi comme nature et type de discours, et donc l'État est tout pourri, donc il faut le casser, bien sûr. Soit tu vas vers des choses dans lesquelles on dit rien. Donc je pense qu'il faut continuer à dire on comprend pas. On voit pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe?
Je pense qu'on continue quand même.
J'ai dit que c'est bien qu'on continue.
Alors, voilà. Justement.
Je vais dire, c'est bien qu'on continue.
On continue.
Par rapport à on continue, je vais préciser que donc sur le site de l'April, l'April.org, vous trouverez une actu qui détaille un petit peu ce rapport. Et il est précisé dans l'actu, donc je vais lire, le ministère des Armées, entre novembre 2020 et mars 2021, a conduit une étude sur l'opportunité de s'équiper en système libre sur le périmètre des postes de travail Internet pour, entre guillemets, réduire l'empreinte du fournisseur Microsoft en utilisant des solutions libres. Alors, document dont l'April a finalement réussi à obtenir communication par les demandes CADA, Commission d'accès aux documents administratifs, et qui confirmait la faisabilité d'une telle migration. Pourtant, à ce jour, et malgré nos demandes répétées, rien n'indique si une décision a été prise ou pas. Et donc, évidemment, les deux parlementaires à l'origine de ce nouveau rapport, mon collègue Étienne, qui est en charge des affaires publiques à l'April, va les contacter pour leur suggérer une question écrite au ministère des Armées. Alors, je ne sais pas qui est la nouvelle ministre ou le nouveau ministre, là, j'avoue, je suis un peu sec, pour demander est-ce que finalement une décision a été prise. Parce que l'étude de faisabilité disait que c'est faisable, et finalement, on n'a toujours pas de nouvelles sur la décision. Donc voilà le suivi qu'on va pouvoir faire sur...
Une étude de faisabilité, donc c'est faisable. Donc c'est pas la première fois qu'on nous dit c'est faisable, c'est pas la première fois qu'on dit qu'il y a dépendance. Donc on attend de l'action maintenant.
Exactement, quoi.
Ok, c'est super, voilà. On va reposer des questions. Trop bien.
Trop bien.
C'est cool.
Ok, G, tu voulais rajouter quelque chose?
C'est tout bon pour moi.
Non, ok. Alors on va aborder un petit sujet beaucoup plus léger là, franchement.
Est-ce que c'est la campagne de Libre en fait?
C'est la campagne Libre en fait, évidemment. Donc proposée par Magali et dont l'une des animatrices principales, si ce n'est l'animatrice principale, est en régie actuellement. Donc évidemment, si elle veut intervenir tout à l'heure, Isabella, elle peut intervenir. Elle estime que non. Je sais pas pourquoi. Bon, Magali, le Libre en fait, c'est quoi?
Alors Libre en fait, c'est une initiative qui est lancée en 2001 par l'April et dont la première édition a eu lieu en 2022 sur 3 jours. En 2002 sur 3 jours, donc le 21, 22, 23 mars. Maintenant, donc 20 ans après, ça dure 4 semaines, c'est autour du 20 mars. Donc suivant les années, ça commence plus ou moins 15 jours avant, 15 jours après. Cette année, c'est du 9 mars au 7 avril. Et donc, on demande à plusieurs associations d'organiser des événements pour faire découvrir le logiciel libre au grand public.
Alors, c'est quel type d'événement, en fait?
Alors, ça peut être des conférences, ça peut être des démonstrations, ça peut être des passages de vidéos, de films, ça peut... Vous faites à peu près ce que vous voulez, du moment que ça parle de Libre, on est content. Pour que ce soit référencé sur le site de Libre en fait, pas besoin de contacter le site de Libre en fait. Il suffit de publier votre événement sur l'agenda du Libre. Et quand vous faites ça, vous faites deux bonnes actions, puisque c'est sur l'agenda du Libre, ça va vers Libre en fait, et c'est publié sur Linux FR.
Oh là, trois sites à la fois. Bon, ouais. Vous inquiétez pas, vous allez sur libreavoue.org ou sur causecommune.fm dans la page consacrée à l'émission et vous trouverez les références. On salue Echarpe d'ailleurs qui est sur l'un des salons, qui est le développeur principal de l'agenda du libre, ouais. Hein, qui permet de retrouver en fait tous les événements libristes en France et dans d'autres pays aussi. Il y a d'autres versions. Donc actuellement, pour l'instant, la campagne vient juste de commencer de communication. Hein, donc il y a 25 événements qui sont référencés. Pour rappeler, en fait, Libre en fait permet de créer cette dynamique, d'avoir un site vitrine en cours. Encourage les structures à organiser des événements, mais c'est pas Libre en fait qu'organise les événements. C'est organisé par des groupes d'utilisateurs et d'utilisatrices, par des espaces publics numériques, par des bibliothèques, voilà, des publics très variés.
Des particuliers.
Est-ce qu'Antanac fait quelque chose dans le cadre du Libre en fait?
On ne sait pas encore. Isabelle. On a reçu la communication, of course. Mais on a, voilà, il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on voit qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on fait un truc particulier ou bien est-ce qu'on estampille un truc qu'on a prévu de faire par ailleurs sur le livre? C'est un peu triché, mais pas trop. Mais comme on n'est pas 1012 non plus, donc voilà, on va voir.
Si c'est pendant les dates de Libre en fait, ça s'adresse au grand public, c'est pas triché, c'est juste partagé.
On s'adresse toujours au grand public, donc oui.
Non mais du coup, moi je veux repointer Isabella parce que elle fait un travail démentiel.
Mais je crois qu'elle va pas. Elle accepte d'activer son micro. Vas-y, Isabella.
Bonjour à nouveau. Je voulais juste préciser que vous n'avez pas besoin d'organiser un événement spécialement pour Libre en fait. Si vous avez déjà prévu un événement grand public dans les dates du Libre en fait, donc du 9 mars au 7 avril, vous pouvez le référencer. Il suffit de rajouter le mot-clé qui va bien. Libre en fait 2024 avec un tiret entre chaque mot sur l'agenda du Libre et hop, automatiquement, ça va directement dans le site du Libre en fait.
Et quand vous soumettez un événement sur l'agenda du Libre, il y a une petite suggestion qui est faite pour ajouter ce mot-clé. Donc voilà, c'est tout à fait... Et puis effectivement, c'est depuis 2002. Donc ça fait quand même 21 ans que cet événement...
23,
on est en 24. Oui, c'est vrai qu'on est en 24. Non, mais je ne veux pas vieillir. Je ne veux pas vieillir. En 2002, le premier événement.
2022, 2024.
Comme ça.
Alors, binaire, ça donne quoi tout ça? Ok, donc en tout cas, vous Libre en fait, donc n'hésitez pas soit à participer à un événement, soit si vous organisez déjà des événements, à le taguer effectivement, à le marquer comme étant Libre en fait, hein, pour du moment qui s'adresse effectivement au grand public. Magali.
Et du coup, j'ai une petite annonce, mais G pourrait la faire avec moi. Nous, pour Libre en fait, on va organiser un événement à la librairie où il va venir dédicacer ses livres, parler de licence libre. Et c'est possible que j'ai un petit écharpe qui vienne faire des discussions pour présenter quelques logiciels et parler de chatons. Voilà, ouais. Donc n'importe qui, même une librairie, peut organiser un événement pour Libre en fait.
Bon, c'est pas n'importe quelle librairie,
parce que la présidente de l'April, quoi. Bon,
ouais,
C'est-à-dire que n'importe quelle librairie peut organiser, oui, même s'ils sont pas présidents de l'April.
Évidemment.
Tout à fait. Indique la date, ce sera.
Ah, pardon, ça sera le samedi 9 mars. Mais alors, je suis très mauvaise commerciale.
C'est,
en fait,
c'est le 9 mars et c'est pour les 20 ans de ta librairie.
Les 19.
Les 19. Oh, bah, viens, j'ai pas de chance avec les dates.
Pourtant, t'as le choix. Hein, oui, donc...
Non, on peut pas. On est en direct. Donc, les 19 ans de la librairie où, effectivement, tu fais toute une journée orientée vraiment à la liberté informatique.
Oui, pour une fois, j'ai l'intention de me faire plaisir et de mettre du libre dans la librairie.
Et c'est pour ça que ton pseudo bien connu dans le monde libriste, c'est Bouquinette, parce que t'aimes bien les livres et tu es pas très grande, comme tu le dis. Mais que moi, je t'appelle Magali, je suis une des rares personnes à t'avoir connue avant ce contexte-là. Donc, voilà. J'ai du mal à t'appeler Bouquinette. Voilà. Donc, Libre, en fait, c'était un petit peu le sujet.
Du 9 mars au 7 avril.
Exactement. Le sujet un petit peu tranquille, festif, etc. avant qu'on passe à des sujets un petit peu plus tristounets, on va dire. Alors, pour le sujet suivant... ça c'est Isabelle.
C'est quoi, c'est lequel? Alors vas-y.
Je t'ai demandé tout à l'heure lequel était prioritaire par rapport au temps, mais le prioritaire, c'est la France crée un fichier des personnes trans.
Alors, en tout cas, ça, c'est le titre qui a été donné dans l'article que je vous ai fait
passer. Oui, de la quadrature du net.
La quadrature du net. Parce que moi, finalement, et pour faire le lien avec d'autres sujets qu'on a abordés précédemment, je pense que, en fait, ce fichier, il n'est pas simplement que pour les personnes trans, parce que sinon, si on est sur les personnes trans et qu'on reste dans un schéma binaire, et que là, moi, j'avais justement envie aussi de parler du non-binariat. C'est-à-dire qu'en fait, ce fichier qui va être créé là, il va être créé pour tous les changements d'identité, en quelque sorte. Et que donc, quelqu'un qui va dire « Ok, moi, on m'a dit que j'étais un garçon quand je suis arrivé au monde, mais en fait, moi, c'est pas ça que je sens. Je me considère comme quelqu'un de non-binaire. » est également concerné. Donc, c'est pas une attaque contre la quadrature du net, que c'est des gens que j'adore, donc c'est vraiment pas ça, mais juste, pour moi, c'est au-delà. Oui, bien sûr, c'est et c'est plus facile de défendre, en fait, les trans que défendre les non-binaires, encore, dans notre société, je ne sais pas pourquoi. Tu veux dire un truc, déjà ? Vas-y, dis.
En fait, moi, j'ai vu ça, les trans, les non-binaires, ouais. Mais j'ai aussi vu ça avec les immigrés qui veulent juste changer de prénom pour se faire franchiser.
Alors ça, ils en parlent, oui. Voilà. Ils ont mis le titre sur les trans, mais ils en parlent après, ouais. Effectivement. Dans le corps du texte, ça, c'est indiqué un peu plus. Alors, pour expliquer quand même pour les auditeuristes, pour pas aller trop vite, mais c'était pour juste parce que tu citais le titre. Qu'est-ce qui est prévu ? Il est prévu de... Donc, c'est un très récent arrêté ministériel qui autorise la création d'un fichier de recensement des changements d'état civil. La question, c'est que non seulement il y a un fichier, mais en plus, qui va être accessible dorénavant et désormais par la police, notamment, mais aussi tous les services du ministère de l'Intérieur, voire même la gendarmerie, l'armée, enfin, etc. Alors que normalement, un changement d'identité, arrêtez-moi si je dis une bêtise, mais ça doit concerner qui, à part les intéressés, les proches, ça doit concerner toutes les administrations qui ont quelque chose à faire avec ça. Autrement dit, évidemment, l'INSEE, puisque tu changes de NIR éventuellement, même si...
C'est quoi le NIR ?
Pardon, le numéro, c'est le numéro de sécu, tu sais, le 1, machin, je sais pas quoi, ou 2, je crois. Et sauf que justement, ils n'ont toujours pas prévu un 0 quelque chose, pour le moment. Et donc ça, ça pourrait être aussi une revendication ou quelque chose qui a été traité depuis les années 70, en fait. Je pense que j'étais petite déjà, on parlait de ça, mais bon, bref. En tout cas, donc tu passes de 1 à 2 ou de 2 à 1 en fonction de ton changement d'identité éventuel. Et puis ça va toucher qui ? Ça va être voilà, donc la sécurité sociale, la CAF, et les gens qui, même si au départ ce numéro NIR, on nous avait dit que ça servirait pas à trop de choses, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Super. En fait, on s'en sert beaucoup plus. Hein, c'est le numéro d'immatriculation de la personne et qui devient donc grâce à ce fichier un numéro d'identité et pas simplement d'identification. Et c'est là où c'est compliqué, parce que ça veut dire que la police, les gendarmes, etc. vont pouvoir suivre tout changement et avoir éventuellement à en dire quelque chose ou à en faire quoi. Et ça veut dire aussi, comme tu le soulignais, que ce changement-là, pour des personnes qui sont donc... Alors on les appelle des immigrés. Je trouve l'appellation compliquée, moi.
C'est ce qui est utilisé dans l'article.
Ouais, c'est utilisé dans l'article. Alors, je ne sais pas ce qu'il faudrait dire, mais en tout cas, des personnes qui sont en exil, moi, j'aime bien plutôt ce terme, ou qui, en tout cas, ont été forcées peu ou prou à quitter leur lieu de vie habituel, leur lieu culturel, leur lieu natif, pour aller ailleurs, pour des raisons soit économiques, soit politiques, soit etc.
Après, le changement de prénom, c'est aussi pour des gens qui n'aiment pas leur prénom parce que leurs parents ont fait des choix de merde, donc ça les concerne aussi.
Alors, excuse-moi, oui. Isabelle, il y a une question sur le salon. Quelle est la différence entre identité et identification ?
Alors ça c'est un gros sujet qui dépasse.
Mais c'est toi qui viens de le dire.
Ouais, c'est vrai. Ouais. Je l'ai dit. Je pensais que ça allait passer.
Non, les personnes qui nous écoutent suivent ce que tu dis.
C'est trop bien. Et voilà. Je suis trop contente. Alors, identification, pour moi, c'était justement l'identification dans le sens, on a besoin d'un numéro d'immatriculation. Voilà. Et donc, pour l'identification de quelqu'un, c'est, on a décidé que le code, ça serait, ben voilà, d'abord le sexe, puis l'année de naissance, puis le mois de naissance, puis le département de naissance, puis l'ordre à la mairie de quand on t'a inscrit, enfin, etc. Donc, c'est quelque chose d'identifié comme étant, tu es un être reconnu comme étant présent dans la société française. Bon. L'identité, c'est autre chose. L'identité, c'est ce que la personne va en faire, va porter, souhaiter porter ou pas, au-delà de cette identification de naissance. Et c'est pas quelque chose... Parce qu'à la naissance, t'arrives, t'es tout petit, là, puis on décide pour toi, en fait. L'identité, c'est ce que tu vas te construire, toi.
Alors que là, c'est plutôt quelque chose que tu construis.
Que tu construis, que tu modifies, que tu... Et je trouve que la société, par ailleurs, c'est ça qui est curieux, c'est que la société, par ailleurs, commence... Moi, je vois des tas de changements, notamment dans les écoles et autres, dans lesquels la question queer, par exemple, commence à se poser, où on autorise, on entend des instits accepter que des gamins, des gamines puissent dire des choses sur, mais en fait, moi je voudrais être un garçon, mais en fait, je me sens pas une fille. Bref. Et donc, bon, pourquoi ? Enfin, ça vient comme redonner un coup dans l'autre sens, qui est quand même étonnant. Et voilà, on voit pas pourquoi. On voit pas pourquoi on serait obligé, là, à nouveau, d'ouvrir la porte à des choses qui peuvent aller vraiment loin, parce que on le sait comme d'habitude. Hein, c'est-à-dire que. On commence par un petit machin, c'est un petit fichier, puis on ne sait pas derrière quelles vont être pour de vrai, non seulement les utilisations, mais aussi qu'est-ce qu'on va mettre comme garde-fou pour que ça ne soit pas fait n'importe quoi. Ben on n'en sait rien, en tout cas, ce n'est pas dit. Hein. C'est dit nulle part.
Alors, peut-être, Meg, je te laisse réagir, mais oui. Juste préciser quand même, parce que c'est pas passé par un projet de loi ou autre, hein, c'est passé par un arrêté, donc juste c'est un acte réglementaire, publié fin décembre, donc le 19 décembre 2023. On sait généralement que les documents, ces choses-là qui sont publiées autour de Noël, ça passe un peu.
Soit l'été, soit Noël.
Ouais, soit l'été, soit Noël, c'est pour passer un petit peu inaperçu, donc voilà, c'est. Et évidemment, l'article de la Quadrature du Net dont parle Isabelle est sur la page de l'émission, ou sinon vous allez sur laquadrature.net. Net, oui. Et puis vous trouverez les références. Je crois qu'Isa, Mag voulait réagir.
Ah ouais, enfin, moi ça me choque pas que ce fichier existe tant qu'il reste enfin pour l'administration. Je veux dire, ils veulent faire changement, enfin qu'il y ait des changements de nom, c'est normal, qu'il y ait des changements de prénom, c'est normal. Ce qui me choque, c'est que ce fichier soit accessible à la police. Ça, je trouve ça mais totalement inadmissible et j'ai peur des conséquences, quoi. C'est des données qui sont censées rester privées ou pour certains besoins des impôts, la CAF et ainsi de suite. Pourquoi la police doit y avoir accès? Moi, si on peut m'expliquer en quoi ces informations doivent être accessibles.
On sait que les personnes concernées, que ce soit les personnes transgenres ou les personnes immigrées, ce genre de choses, sont déjà les plus victimes de violences policières statistiquement. Hein, c'est pas moi qui l'invente. De fait, deviennent encore plus identifiables, encore plus fichées. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? J'ai l'impression qu'on a un truc avec les fichiers qui est le côté, en fait, parce qu'on peut, quoi. On peut faire un fichier, du coup, on va le faire. On se pose pas trop la question. En plus, d'après, si j'ai bien compris l'article de la Quadrature, ce fichier-là, comme les informations ont l'air anodines, c'est nom, prénom, bah, il est pas considéré comme un fichier de données sensibles. Donc, en plus, il est même pas spécialement protégé par rapport à d'autres fichiers. Ça. En fait, moi, je pense qu'on devrait avoir vraiment un principe de précaution sur les fichiers qui est en fait, ça devrait être nom par défaut. Il faudrait vraiment le défendre, faire une procédure compliquée pour faire accepter un fichier. Et j'ai l'impression que là, c'est un peu le contraire. C'est-à-dire qu'on balance des fichiers comme ça, puis ah bon, et puis la CNIL peut donner un avis dessus, mais c'est un peu consultatif, quoi. Et c'est assez inquiétant, quoi.
Mais c'est pas simplement un fichier, c'est aussi des tables de correspondance qui sont ouvertes avec ça. C'est-à-dire que, ici, à un moment dans l'article, des choses concernant, même, on va aller aussi, pourquoi pas, demain matin, je dis n'importe quoi exprès, hein, mais sur, à demander la religion des gens. Je veux dire qu'on est, bah ouais, on est sur des modèles de cet ordre-là. Et du coup, c'est d'abord parce qu'un prénom, ça n'est pas anodin. Un prénom,
surtout quand on le change.
Voilà, quand on le change, il a du coup une origine éventuelle culturelle. Donc du coup, faire le lien entre ça, des questions de santé, des questions de domicile, et puis on revient à nos affaires sur la santé, et sur la CAF. Hein. Je veux dire, c'est la même chose pour moi. Quand tu dis qu'il n'y a pas de, enfin, tu vois, c'est pas simplement faire des fichiers, c'est aussi les correspondances qui vont être possibles. Donc c'est pas que la police pour moi qui est le risque. C'en est un énorme, gigantesque, j'entends, mais il y a aussi tout le rôle que d'autres institutions prennent dans le contrôle social. Et il est pour moi aussi important, aussi grave que celui de la police directe. Au moins, la police, on sait qui elle est. La CAF, on pouvait croire que c'était pas une police, normalement, non?
Normalement.
Hein, voilà. Ouais.
Parce que tu dis que nom et prénom, c'est des données pas sensibles. Mais du coup, pour moi, le changement du nom ou du prénom devient une donnée sensible.
Je dis pas que c'est pas sensible, je dis qu'a priori, en tout cas, la CNIL n'a pas considéré que c'était sensible. Ce qui se discute énormément, effectivement.
À la CNIL.
Bah ouais, mais la CNIL.
Quoi la CNIL?
C'est compliqué.
Vas-y.
Mais non, mais la CNIL, tu vois, c'est navrant. Je trouve ça navrant, la CNIL. Non?
Elle est passée sur le sujet suivant.
Non, pas du tout.
Je pensais même pas au sujet suivant, effectivement. Non, mais en plus général, la CNIL.
La CNIL.
Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Oui, mais là, la CNIL, elle dit quoi? Elle dit. Bon, oui, enfin, ça fait quand même plusieurs fois, là, ces derniers temps, que la CNIL a dit oui, bon, d'accord quand même, mais je suis pas d'accord, mais quand même oui.
Oui.
Bon, tu vois, c'est triste comme réaction, non? Enfin, je sais pas. Alors peut-être tu vas me dire, nous connaissons des gens qui, quand même, à la CNIL, sont très gentils. Et que...
Non, mais ils sont débordés, c'est évident. Ils mettent pas assez de... Non, j'en sais rien, je sais pas du tout.
Bah, je sais pas, je trouve que c'est de pire en pire. Bon, ouais. En tout cas, bref, c'est pas le sujet de la CNIL, là, c'est plutôt le sujet de ces fichiers, de ces tables de correspondance et de qu'est-ce qu'on va en faire derrière. Ouais. Donc là, il y a eu des choses qui vont être faites et qui vont, à mon avis, il y a des choses qui vont bouger là-dessus parce qu'il y a quand même beaucoup d'associations qui se sont branchées sur ce sujet et donc on va peut-être pas laisser passer ça comme ça. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui là-dessus.
À noter que sur Wikipédia, il y a une discussion alors pas sur ce fichier-là, mais justement sur le traitement des personnes qui trans qui veulent changer de nom, prénom. Est-ce que ça doit être précisé? Est-ce que ça doit pas être précisé? Est-ce que c'est laissé au choix, ainsi de suite? Donc c'est vraiment un sujet qui est d'actualité sur le traitement des trans.
Alors c'est beaucoup un sujet d'actualité aussi parce que il y a toute une évolution du champ psychiatrique par rapport aux trans et aux personnes trans, pardon, et au fait que dorénavant on n'est plus dans une obligation de suivi comme on a pu l'être précédemment et ou dans d'autres pays comme ça l'est encore. Et il y a quand même, on parlait des personnes qui donc s'exilent par exemple ou viennent ici habiter en France, il y en a beaucoup qui le font pour ces raisons-là aussi, parce que dans le pays dans lequel elles vivent c'est juste improbable qu'elles le soient. Et donc voilà. Là, ça fait partie aussi de... Ça aurait pu faire partie de la loi immigration, en fait. Ils auraient pu mettre ça aussi dedans, non? Sur la question de l'accueil en France. Ou pas, non, je dis vague.
Bon, espérons que la France reste quand même un pays assez accueillant à ce niveau-là.
C'est mal barré.
Voilà, merci.
Merci Isabelle. On va passer... On va pas lâcher la CNIL, parce qu'on va enchaîner avec le dernier sujet. La CNIL qui valide le choix de Microsoft pour héberger les données de santé. Donc ça, c'est pareil, c'est toi qui as suggéré ce sujet-là.
Ça faisait l'écho avec le sujet.
Mais tout à fait. En fait,
On était super liés.
Je n'avais pas vu que Vincent était rentré dans...
Il était super discret, hein.
Il était très discret, il s'est mis derrière les caméras pour pas qu'on le voie.
C'est du direct, hein.
Voilà. Alors, comme on est en direct, Vincent, ta chronique, elle dure combien de temps à peu près?
Là, j'ai vu les courtés.
Bon, ok, d'accord. Bon. D'accord. Alors, pour les personnes qui n'ont pas entendu, Vincent a dit qu'il a dû écourter sa chronique à cause de G. Donc, voilà, il nous reste 5-10 minutes, vraiment maximum, quelques minutes pour ce dernier sujet.
Je vais faire très vite.
C'est quoi le sujet?
C'était intéressant parce que ça faisait le lien avec ce que tu disais tout à l'heure et ce que tu avais lancé toi comme sujet sur Microsoft, puisque donc, la CNIL, la pauvre, pardon, veuille m'excuser, cher CNIL, qui a validé le choix de Microsoft pour héberger les données de santé. Alors, c'est pas pour tout le monde, c'est pas tout de suite, d'accord, hein, on commence comme d'habitude, en fait. En France, on adore faire, on expérimente et puis après, on généralise parce que l'expérimentation a bien marché. Donc là, on imagine que ça va bien marcher et donc le choix de Microsoft a été fait parce que, et là on va revenir aux autres questions que tu évoquais tout à l'heure. Ouais, tu vas grincer, vas-y. Faute d'alternatives européennes satisfaisantes. Alors ils ont pas mis le mot souverain là, mais parce que du coup non.
Non, ils ont mis européen.
C'est ça, c'est la même. On est vraiment sur le même type de sujet. En fait, on était très raccord dans nos propositions de choses sur l'actualité là, parce que en fait, cet entrepôt de données donc de santé pour la recherche, hein, c'est dit que c'est pour la recherche, c'est pour notre bien évidemment.
Mais c'est toujours pour notre
bien. Hein. Voilà, c'est pas du tout pour aller déposer des données et avec un risque. Non, il n'y a pas. Bon, d'accord, il y a un petit peu un risque. Mais c'est aussi la faute de. Comment il s'appelle? Alors, il y avait OVH.
Ouais, qui a pas fait assez bien.
NumPost et Cloud Temple. Je ne les connais pas, les deux autres. Mais en tout cas, voilà, ils n'ont pas fait assez bien, fournisseurs français. Et donc, en fait, c'est de leur faute si on a été obligé de confier à Microsoft les données de santé de 4 ou 5 départements, là, avant de pouvoir mettre ça.
Malgré les risques? Toi, voilà, ils sont pas assez bien, mais on a confié à Microsoft
parce que c'est temporaire.
Oui.
D'accord.
On va les donner.
Bah oui, mais de toute façon, temporaire, ça veut rien dire. Quand tu donnes des données, tu les donnes.
Enfin, je veux dire, comment tu peux pas les récupérer après.
Tu peux pas dire après. Faites comme si je ne vous avais rien dit. Non, voilà. Non, c'est dit. Ce qui est dit est dit. Donc, voilà. Donc, on a 4 hôpitaux français, les Hospices Civils de Lyon, le Centre Léon Bérard, le CHU de Nancy, la Fondation Hôpital Saint-Joseph, et puis les données de l'assurance maladie, remboursement de consultations et de soins, parcours hospitalier, et hop, on refait le lien avec notre autre fichier. Mmh. Non?
Ouais. Mais moi, ça c'est toujours le même truc qui m'agace, quoi. C'est ce côté, il n'y avait pas d'alternative, mais une alternative, ça pourrait se construire, en fait.
Ah.
Et ce truc, c'était ce qui, pour moi, est vraiment un dogme, le dogme néolibéral qui dit qu'en gros, la puissance publique ne doit avoir aucune compétence, quoi. C'est un truc, il faut qu'on achète des trucs, mais grand Dieu, alors là, on va jamais embaucher des gens en interne, parce que c'est un coût. Alors qu'en vrai, c'est débile, je veux dire, des fonctionnaires, ils vivent en France, ils consomment en France, alors que des licences, quand tu les payes à Microsoft, ça part à l'étranger en pure perte, quoi. Pendant des décennies, on a eu des fleurons français, on a eu EDF, on a eu France Télécom, la SNCF, tout ça. On a tout pété et maintenant on refuse complètement de faire marche arrière, de dire que en fait, ne serait pas mal d'avoir des compétences publiques, quoi, des compétences en interne, quoi. Et voilà. Et donc que ce soit pour ça, pour l'armée, pour ce que tu veux.
On en a gâché plein des compétences qu'on avait dans les ministères. Il y avait énormément de gens hyper compétents sur les sujets d'informatique, notamment dans les ministères. Et ceux-là, on les a virés.
Bizarrement, quand ils sont compétents, ils veulent faire du libre et du coup, on s'en passe. Pardon.
C'est QFD. Voilà. Bon, c'est bien, on s'en tient là, c'est bien. Non, c'était clair.
Comme tu veux.
Non, je ne sais pas, sauf si vous avez autre chose à en dire.
Sauf s'il y a des réactions, ou même sur les salons web, hein, je ne sais pas s'il y a des réactions.
Il faut attendre les 30 secondes de PeerTube.
Ah oui, effectivement, il y a un décalage, qui doit être de 25-30 secondes, voire un peu plus par rapport à PeerTube, effectivement. Bah, écoutez...
Non, mais c'est vrai que on a eu trois sujets qui se recoupaient pas mal, hein, que ce soit sur le ministère des Armées, ça, et puis c'était quoi le dernier? C'était...
Le piège Microsoft.
Tous les sujets en fait, qu'on a traités là, tous ces sujets-là, en fait, ils ont comme conclusion ce que vous avez dit, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour un jour arrêter le désastre en la matière, redonner des compétences, des gens, de l'argent là où il faut pour développer des choses un peu de manière intelligente et libre. Quoi.
Non, mais la question, on sait comment faire.
Mais bien sûr,
il faut
qu'on
faire
sait.
Ça.
Il suffit
la question,
juste
c'est
de le faire.
Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi les administrations, les élus, qui vous voulez, ne le fait pas. Parce que, bon, ok, ils font pas de libre, mais ça reste en interne, ça fait monter les compétences. Bon, déjà, je serais un peu plus contente que juste engraisser Microsoft et les GAFAM, quoi. Mais même ça, ils le font pas.
Oui, moi, je parlais des fleurons français, France Télécom, moi, je dis pas qu'ils faisaient un truc fabuleux avant. Bon, on a eu le Minitel qui était quand même un truc, voilà, on peut en penser ce qu'on veut, mais c'était quand même un truc...
Oh, c'était génial,
C'était quand même un truc, une exception française, je veux dire, c'était un peu un ancêtre d'Internet. Voilà, c'était un truc qui avait été développé par la puissance publique, alors ok, le Minitel, c'est pas fou. Mais donc oui, il y a quand même un côté, même si c'est pas, ça va pas aller dans une direction, parce que ça n'ira jamais dans notre direction complètement, de toute façon, parce que bon, on est en démocratie.
Ah, c'est ton côté négatif, mais casquette bisounours.
Non, mais je pense pas que ce soit forcément une bonne chose que tout aille dans ma direction. Je ne suis pas égocentrique à ce point, mais même si elle est dans des meilleures directions, dirons-nous, même si c'était pas du 100% libre et tout, si effectivement on arrêtait de se considérer comme des consommateurs et de tout balancer dans des logiciels étrangers et tout ça, il y aurait déjà du mieux, quoi.
Ça vous va comme conclusion ?
Ouais, c'est bien.
C'est bien ?
Ouais, c'est bien.
Alors, je préviens d'avance la régie que ça sera la troisième pause musicale, pas la deuxième qu'on va faire. Voilà. Bah, écoutez, merci pour ce nouveau Café Libre, hein, avec G.
Merci à toi.
Magali, dites bouquinette. Allez, je vais faire un effort. Et Isabelle, écoutez, le prochain au Café Libre, c'est le mois prochain. Alors, je ne sais pas qui sont les trois personnes qui participeront. Vous verrez, parce que c'est une équipe ressoudée de 6 personnes qui tournent. En tout cas, merci à vous et merci aux personnes qui nous ont écoutés. Donc, avant de passer au sujet suivant, qui sera une nouvelle chronique sur 200, nous allons faire une pause musicale.
Bon, moi, j'allume les bougies.
Alors, tu peux allumer les bougies, mais tu me laisses annoncer la pause musicale pour que les gens puissent écouter la pause musicale. Donc, nous en écoutons une pause musicale choisie par mon collègue Étienne Gonu. C'est Lemony par Minda Lacey. On se retrouve dans 2 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune 93.1.
Lemonade, 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 too many lemons in my pie. The pie was lemonade, lemonade, lemonade. Too many lemons in my pie. And the Jiminy told me you ought to be what you want to be, or you may as well be asleep, or cooking the amphetamines. Cause Jiminy knows that amphetamines are good for a hell of a lot of things, like clearing up the skies and cooking lemonade pies. Amphetamines were taken by the anemones, and the anemones gave the amphetamines to the enemies. And this lemonade, too many lemons in my pie. Too many lemons in my pie. Crammin' a Jiminy found him, it crammed up in the chimney. Must have been from all the yummy amphetamines he'd been a-givin' me. And they were lemony, oh so lemony, that sunk right to the pit of me. And I thought that he was shitting me when he brought up the possibility of us finding the anemones, to locate the enemies and reclaim our oh so precious abilities of making a lemony pie is just a bit less lemony. There are too many lemons in my pie. A lemon, the too many lemons in my pie. The pie was lemon, the too many lemons in my pie.
Nouveau
venons d'écouter Lemony par Minda Lessi, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions, CC BY SA. Sur la page de l'émission, vous pouvez trouver aussi un lien vers une interview de Minda Lessi réalisée il y a quelque temps par mon collègue Étienne Gonu. C'est sur la page de l'émission, c'est libreavoue.org/200 ou sur causecommune.fm.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Nous allons passer au sujet suivant. Vincent Calam vient de s'installer dans le studio. C'est la première fois qu'on est cinq autour du plateau. Donc Vincent, informaticien, libriste et bénévole à l'April, nous propose des chroniques et lectures buissonnières. Ou comment parler du libre par des chemins détournés en partageant la lecture d'ouvrages divers et variés. Alors le chapitre aujourd'hui est intitulé, c'est un peu bizarre, « 200 et de l'orthographe ».
Oui, alors moi, tout comme G, je me suis dit, qu'est-ce que c'est la 200e ? On va faire un sujet sur 200. J'ai mis en parenthèse ma chronique précédente que j'ai pas continué sur l'histoire des libertés associatives. Sauf que Jim un peu donc et m'a un peu coupé l'herbe sous le pied puisque j'avais aussi remarqué que 200 en chiffres romains c'était CC, je trouvais que c'était très sympathique, mais voilà, je vais c'était quand même pas le cœur du sujet heureusement. Donc je vais traiter le cœur du sujet parce que quand on m'a dit une chronique sur 200, j'ai un premier réflexe de l'homo numericus, c'est de faire une recherche sur internet. Alors, surprise, il n'y a pas grand-chose. Hein. Sur 200, il y a les 100 schtroumpfs, les 300 spartiates, mais à part 200, les valets ou à la belote, il n'y a pas grand-chose. Et mes surprises, quand même, dans les premières occurrences, on trouve une entrée sur le Wiktionnaire. Alors, j'ignorais que les nombres disposaient de leur propre plage, donc c'était un préjugé de ma part. Hein. Les nombres sont des mots comme des autres. Et rappelons que le Wiktionnaire fonctionne sur le même principe que Wikipédia, mais là où Wikipédia est une encyclopédie, là c'est une édition collaborative des définitions du terme du lexique. Donc j'ai vu que 200 disait CC, donc ça me parlait, je me dis c'est un signe, faut que je continue sur cette voie. La deuxième chose qui m'a frappé, c'est que 200 était écrit avec un tiret. Et le Wiktionnaire le rappelait, c'est la forme préconisée par la réforme de l'orthographe de 1990. Le Wiktionnaire étant ouvert d'esprit, lui, il propose également une entrée pour 200 sans tiret avec une espace qui correspond à la vieille orthographe. Alors cette évocation de la réforme de l'orthographe me fait penser à une lecture récente, c'est le manifeste des linguistes atterrés intitulé « Le français va très bien, merci », édité chez Gallimard dans la collection Tract. Comme on est vidéo, on peut le montrer à l'écran. En plus, c'est pas cher du tout. Donc c'est un manifeste rafraîchissant qui bouscule le fétichisme très français sur l'orthographe, rappelle que c'est un puissant marqueur social et promeut la simplification. Celle de la réforme de 90, qui a mis tant de temps à s'imposer alors qu'elle est en fait très légère, voire timide, mais aussi d'autres règles, comme l'invariabilité en toute occasion du participe pour l'auxiliaire avoir, et l'accord au plus proche, qui non seulement remplace la règle masculin l'emporte sur le féminin, mais est tout simplement beaucoup plus agréable à l'oreille. Alors, toutes ces modifications provoquent des levées de boucliers chez les conservateurs de tout poil. Je conseille particulièrement le passage du manifeste sur Molière qui vous fournira quelques arguments quand on vous sortira, c'est la langue de Molière qu'on assassine. Bref, donc c'est une lecture, c'est court, hein, c'est percutant, une lecture que je vous conseille, mais à ce stade de la chronique, il est temps de laisser à Fred l'occasion de poser la question rituelle.
Quel est le rapport avec le logiciel libre ?
Voilà. Eh bien, fort de ma lecture du manifeste, je suis allé regarder ce qu'il en était des correcteurs d'orthographe sur les systèmes libres. Sur la distribution GNU/Linux de mon ordinateur fixe, qui est ma Gaia, j'ai constaté que LibreOffice acceptait les deux orthographes, celle de la réforme et la désuète. C'est, me semble-t-il, la meilleure position. Hein. C'est celle du Wiktionnaire et c'est celle qui nous laisse la plus grande liberté. Et là aussi, l'avantage de ne pas prendre parti. J'ai juste constaté que l'outil de correction, c'est différent de correcteur d'orthographe, l'outil de correction automatique, m'empêchait d'écrire chariot avec deux R. Bon, pénible, mais contournable. Par contre, sous LibreOffice sous Debian, l'ancienne orthographe était imposée et des accents circonflexes fleurissaient un peu partout. Debian serait-il un fief du conservatisme ? Alors, j'ai mené donc mon enquête. Dans les deux distributions, le dictionnaire de LibreOffice est géré par une dépendance appelée Unspell, c'est le nom du logiciel, et dans le cas de Debian, il y a trois paquets différents, mutuellement exclusifs. Le dictionnaire conservateur, le dictionnaire de la réforme, et le dictionnaire avec les deux graphies acceptées. Donc chez Mageia, par contre, il n'y a qu'un seul paquet qui correspond au dictionnaire avec les deux variantes. Comme dans la distribution Debian, le paquet installé par défaut est le dictionnaire conservateur, j'avais l'explication de ces différences. Alors évidemment, ce choix du conservatisme par défaut me paraît discutable. Certes, on peut changer le paquet, hein, mais il faut le savoir. Cependant, ce choix n'est pas le fait de l'empacteur Debian, qui lui-même s'appuie en fait sur sa source, qui est le site de Grammalect. Alors, Grammalect est un outil de correction grammaticale, qui est bien connu d'ailleurs du groupe Transcription. Je suis allé donc sur ce site, mais malheureusement, il a un gros problème, parce qu'il a eu un gros problème en 2022, et toute la partie forum a disparu. Son seul demeure, le dépôt du code. L'autre problème, c'est que tout paraît géré par une seule personne, anonyme de surcroît, avec une activité réduite. J'ai d'ailleurs trouvé un ticket resté sans réponse du mainteneur du paquet Debian Unsped, justement, qui demandait où trouver une nouvelle version à jour. Alors, j'ai évidemment beaucoup de respect pour cette personne anonyme, qui fait un travail formidable, et je compatis aussi beaucoup à la perte de données du serveur, mais un outil comme un dictionnaire ne peut pas être l'œuvre d'un seul. En ces temps de combat, notamment autour de l'écriture inclusive, il serait important qu'un collectif s'empare du sujet. C'est pour ça que je profite de ces chroniques, hein, pour lancer un appel. Si malheureusement la personne responsable de Grammalect ne répond plus, lançons un nouveau collectif pour proposer un dictionnaire à jour. Dans un premier temps, on pourrait présenter ça comme le dictionnaire de l'April, utilisé pour toute sa production littéraire. Il sera évidemment disponible pour tous, et gageons que le mainteneur du paquet Debian sera content d'avoir une source fiable et active. Une entreprise de travail très intéressante est fournie par un autre ticket sans réponse sur le site de Grammalect. J'ai mis les références sur le site. Celui d'une personne visiblement active dans le Wiktionnaire qui propose de faciliter l'intégration des nouveaux termes du Wiktionnaire dans le dictionnaire orthographique. Je pense qu'articuler deux projets libres aurait beaucoup de sens. Voilà. Alors, pour conclure, nous rappelons souvent à cette antenne qu'il y a mille manières de contribuer au libre et qu'il n'est pas nécessaire de savoir coder. Je crois que le dictionnaire du français est un très bon exemple. Voilà. Il n'y a plus qu'à, comme on dit. Alors, rendez-vous pour la 300e du libre à vous et on vous tiendra au courant de l'avancée du projet.
Bah, écoute, merci Vincent, mais ça sera rendez-vous la 256e, si tu as bien écouté la chronique de G au début de l'émission.
C'est vrai.
Et non pas la 300e. Alors, comme on est un petit peu en avance, Vincent, je vais te demander quand même de préciser peut-être ce que tu as employé plusieurs fois le terme distribution, paquet. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est une distribution logiciel libre? Est-ce que c'est avec un paquet?
Voilà. Ah. Eh bien, en fait, nous, contrairement à Windows, où par exemple, on a Windows préinstallé et puis ensuite on doit aller télécharger sur des sources plus ou moins fiables les différents logiciels qu'on veut installer, GNU Linux est présenté sous la forme, pour le grand public, sous la forme de distribution, c'est-à-dire tout l'ensemble de logiciels, pas seulement ce qui fait tourner l'ordinateur, mais également le logiciel de bureautique, le navigateur, et ainsi de suite. Et évidemment, comme partir des sources serait compliqué, pour faciliter la diffusion de GNU Linux et de logiciels libres, il y a des distributions qui présentent des paquets faciles à installer, et donc il y en a plusieurs, hein. J'ai cité Debian, qui est une des plus connues, moi j'utilise Mageia, et puis il y a Ubuntu également, qui est connu, et à chaque fois, ils proposent, proposent plein de choses qu'on peut installer. Mais il y a quand même, c'est pour ça que je parlais du paquet Unsped, il y a quand même le phénomène où il y a ce qui est installé par défaut et ce qui ensuite, on doit faire l'effort d'aller rechercher, ce qui fait que il y a toujours le biais de celui qui prend la décision de ce qui est par défaut et de ce qui n'est pas.
Mais écoute, c'est un beau résumé au débeauté. Je renvoie les personnes qui veulent en savoir plus à l'émission numéro 10 de Libre à vous. Donc, libreavous.org/10, dans laquelle on est pendant...
2 ou 10?
Non, 10. 10, putain. 10 en 10 en décimale, effectivement. Slash 10. Donc, c'était la chronique lécurbutionnaire de Vincent Calam. Merci Vincent, puis au mois prochain.
Oui, au mois prochain.
Alors, l'émission se termine sous peu. On va passer à quelques annonces de fin. Alors, dans les annonces de fin, la radio Cause Commune vous propose un rendez-vous convivial chaque premier vendredi du mois à partir de 19h30 dans les locaux à Paris, au 22 rue Bernard Dimet dans le 18e arrondissement. Une réunion d'équipe ouverte au public avec un apéro participatif à la clé. C'est une soirée radio ouverte. Occasion de découvrir le studio, de rencontrer les personnes qui animent les émissions. La prochaine soirée rencontre aura lieu vendredi 1er mars 2024. Je serai présent. Ma voisine Isabelle sera également présente, donc n'hésitez pas à nous
nous rejoindre samedi 2 mars 2024, comme chaque premier samedi du mois à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Il y a le premier samedi à partir de 14h. L'occasion donc de découvrir les logiciels libres, d'avoir de l'aide pour l'installation de logiciels libres. Éventuellement aussi sur téléphone mobile, je crois bien. On en a parlé tout à l'heure, le Libre en Fête 2024, ça déroule du samedi 9 mars au dimanche 7 avril 2024. Pour l'instant, il y a 25 événements référencés, mais n'hésitez pas à en rajouter d'autres. Et puis surtout, allez voir le site, hein, libre-en-fête.net. Et vous trouverez sur le site de l'agenda du Libre, agendadulibre.org, tous les événements en lien avec les logiciels libres ou la culture libre près de chez vous. Je crois aussi, Magali, qu'il y a les ateliers de contribution au Libre qui reprennent à Paris, c'est ça Isa, est-ce que tu peux activer le micro de Mag, s'il te plaît. Merci.
Ouais, on aurait pu aussi laisser Vincent parler, puisque avec Parinux, on remet en place les soirées de contribution du Libre. Alors, ça sera plus qu'une fois par mois. C'est toujours à la FPH, ou plutôt c'est de nouveau à la FPH. Et effectivement, je crois que c'est le 14 mars qu'on fait une soirée de contribution au Libre qui rentre très bien dans Libre en fait.
Donc voilà, c'est pas forcément contribution en codant du logiciel libre, hein, c'est toutes les formes de contribution au logiciel libre, documentation, usage, etc.
La plupart du temps, ça commence par beaucoup de discussions.
D'accord, ok. Et
Vincent, ça peut même faire la trésorerie d'une association qui travaille sur le libre.
D'accord.
Donc okay. C'est une contribution libre très très large.
Ok, donc c'est donc à la FPH, donc c'est Paris 11e arrondissement, voilà. Vous entendez le générique de fin qui commence, donc ça veut dire que notre émission se termine. Nous remercions les personnes qui ont participé à l'émission du jour: Jim, Magali Garnero, Isabelle Carrère, Vincent Calam, en manette de la régie aujourd'hui Isabella Vanni. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts: Samuel Aubert, Elodie Daniel Girondon, Languin, Julien Haussmann, bénévole à l'April, et Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio. Merci également à Quentin Gibault, bénévole à l'April, qui découpe le podcast complet en podcast individuel. Nous remercions également les personnes qui étaient présentes sur le salon web de la radio, et aussi pour une première sur le PeerTube, mais la suivante sera la 256e émission, parce qu'il faut que ça reste de la radio. Vous retrouverez sur notre site web libreavoue.org toutes les références utiles, ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions, nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Si vous préférez nous parler, vous pouvez aussi nous laisser un message sur le répondeur de la radio. Pour réagir à l'un des sujets de l'émission, pour partager un témoignages, vos idées, vos suggestions, vos encouragements, ou même vos plaintes, hein, ou pour nous poser une question. Le numéro du répondeur: 09 72 51 55 46. Je répète, 09 72 51 55 46. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission du jour. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous, et faites connaître également la radio Cause Commune, la voix des possibles, dans laquelle il y a plein d'émissions, notamment Isabelle qui anime une émission hebdomadaire, hein, sur plus ou moins, ouais. Tous les 15 jours ? Ah ok, alors tous les 15 jours. Il y a plein d'autres émissions. Si vous vous intéressez notamment à l'informatique, le samedi à 14h, vous avez William qui anime Cyberculture. Et si vous vous intéressez à l'actualité, je vous conseille d'écouter aussi le samedi de 12h à 14h, Sous les lapsus de l'actu, avec Olivier Grieco et Patrick Brunton. La prochaine émission Libre à vous aura lieu en direct mardi 27 février 2024 à 15h30. Notre sujet principal portera, je ne sais pas en fait, probablement un parcours libriste. On ne sait pas encore d'ailleurs. Je crois qu'il y a une discussion après qui doit avoir lieu. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 27 février 2024. Et d'ici là, portez-vous bien.